Le paddock RMC, Kylian Verov.
Salut tout le monde, le paddock RMC se met en mode carte postale parce qu'on va vous plonger dans un week-end de folie, dans une ambiance absolument dingue, dans un monde où règne la démesure. Bienvenue à Monaco, un grand prix pas comme les autres, une atmosphère unique, un ressenti différent, du sportif bien sûr, mais aussi du glamour, du people et du bling-bling. Et forcément, quand je dis tout ça, je me dis quand même qu'on a bien fait d'envoyer un certain Nicolas Paolorsi sur place. Salut Nico.
Salut mon Kylian, ça fait plaisir de t'avoir derrière le micro.
Ouais, j'avoue que ça fait bizarre un petit peu de d'être à ta place.
On va quand même dire aux gens qui nous découvrent éventuellement là, à travers ce podcast que d'habitude Kylian c'est notre producteur favori, c'est lui qui cale toutes les émissions, tous les podcasts, qui met en ligne, qui gère toute la logistique. Donc non, c'est un plaisir de t'avoir. Et en effet, c'est vrai que quand tu parles bling bling et people, je pense vraiment être la bonne personne pour m'occuper de toute cette partie jet set.
Ah, on est d'accord, hein, RMC a décidé de t'envoyer sur place, t'es pas trop dépaysé sur le rocher, c'est toi le plus glamour et le plus bling bling du paddock, non?
Je peux te dire que là je leur mets plein les mirettes hein, quand ils me voient là. Là actuellement je suis dans le paddock, il y en a que pour moi.
Eh oui,
je peux te le dire.
Vraiment, vraiment, les stars, personne ne les voit, c'est vraiment tout est agglutiné autour de toi. L'ambiance est autour de toi. Je me doute que là franchement ça doit être la folie, Nico. Je le disais, on va essayer d'emmener nos auditeurs dans les coulisses de ce Grand Prix de Monaco qui est vraiment unique. Je pense que tu vas pas me contredire là-dessus. Je t'en prie, tu nous disais que tu étais dans le paddock. Dis-nous où tu te trouves, depuis quand tu y es, qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es arrivé, dis-nous tout.
Écoute, alors là actuellement on est à quelques heures du départ de la course, hein, on enregistre ce podcast le dimanche matin et il y a cette effervescence là, tu vois, qui est palpable, c'est un peu le calme avant la tempête. Monaco le dimanche matin, c'est pas vraiment le moment où il y a le plus de fournaise, de tension, parce que les gens ont fait la fête le samedi soir, c'est la nuit qui est la plus longue à Monaco avec énormément de réceptions sur les yachts, sur les bateaux, sur les terrasses. Donc le réveil est un peu difficile, mais là tu sens qu'à quelques heures de la course, voilà, ça commence à s'ambiancer un petit peu. Je sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a un DJ là qui est en train de mixer sur une hospitalité Red Bull, il me semble. Il y a plein de people là qui sont en train d'arriver en bateau. Donc c'est ça Monaco. Et tu vois, quand tu me demandais ce qui marque quand on arrive à Monaco, moi je suis arrivé vraiment sur place vendredi matin. C'est ce contraste qu'il peut y avoir entre toute cette ambiance jet set, bling bling, et ce côté populaire avec des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas forcément des moyens énormes mais qui se déplacent pour aller vivre ce Grand Prix sur une colline, en tribune. Voilà, il y a vraiment ce contraste-là qui est assez phénoménal à Monaco.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. On arrive quand même au milieu de tout ce côté vraiment people, hype, à ressentir quand même le côté populaire du sport toujours.
Oui, à fond. Mais en fait, ce que tu vois, ce qui transpire ici, c'est que déjà tous les gens sont mélangés. Tu vas te balader dans Monte Carlo, tu sors un petit peu de l'enceinte du circuit, bim, tu tombes sur le rail du circuit, t'es tout proche des voitures, tu croises des mécaniciens, tu vois des pilotes qui se baladent ou qui se vont à l'hôtel et qui arrivent au circuit en trottinette ou en scooter, c'est ça Monaco. Tu croises aussi des locaux qui vont au supermarché pour acheter, pour faire leurs courses, quoi. Donc c'est vraiment un mélange des genres, ce Grand Prix de Monaco, et c'est ce qui fait que c'est unique. C'est vraiment à faire une fois dans sa vie, parce qu'il y a une ambiance que tu as nulle part ailleurs, que tu retrouves nulle part ailleurs. Et il y a vraiment ce côté populaire où tu as des gens qui viennent en train, qui n'ont même pas forcément de place, mais qui essayent de se placer sur les hauteurs de Monaco pour choper un petit point de vue, pour apercevoir un bout de monoplace. C'est aussi ça le Grand Prix de Monaco.
Un petit bout de rouge qui file, souvent c'est le rouge, je suppose, qui doit revenir beaucoup à Monaco. Justement, depuis que tu es arrivé là-bas en principauté, dans les rues parfois escarpées de Monaco, tu as quand même dû croiser tout de suite pas mal quelques Ferrari, ça met direct dans le bain, non Nico?
Ouais, c'est clair. Bon, il n'y a pas que des Ferrari. Hein.
Je me doute.
Il y a quelques voitures. Tu es là, tu la regardes, tu fais « Oh, ça n'a pas l'air mal, ça !»
Elle va vite, celle-là,
oui,
dis donc.
Bien évidemment.
Elle fait du bruit, celle-là.
Ouais, celle-là, le moteur il tabasse un petit peu, j'ai l'impression. Moi, avec mon électrique à côté, ma voiture de location, tu vois, je sens que je pèse un petit peu moins.
Mais toi, tu penses à la planète, toi, c'est ça, c'est
pour
ça.
Bien évidemment, bien sûr. Non, mais pour revenir à ta question,
ça te met dans le bain direct.
Ouais, ouais, ça te met dans le bain, ça te met dans l'ambiance. Et puis, il y a une dévotion, il y a une passion pour la Scuderia Ferrari. T'as raison, qui est assez unique, même si je suis surpris quand même. On voit énormément de supporters avec des t-shirts, des casquettes aux couleurs de Verstappen. Il y a du Antonelli, du Mercedes, là, qui revient pas mal cette année. On est juste à côté de la frontière italienne, bien sûr.
Il faut dire que oui, les Italiens sont juste à côté, oui.
Et ouais, donc il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ce jeune pilote, d'Antonelli. Mais oui, bah, c'est clair que t'es... Je te le disais, il y a ce côté quand même ultra, ultra glamour où tu as les gens, en fait, c'est leur sortie de l'année, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ils arrivent avec leur McLaren, leur Ferrari, leur Aston Martin. Ils vont la garer, ils donnent les clés aux voituriers et puis voilà, quoi.
Pas de tracas, quoi. Ouais. pas de problème. Alors que ton électrique, toi, tu l'as donné à qui, ton électrique?
Ah bah au parking, là, mon gars. Et on paye, bien évidemment.
Bah évidemment, dans toute cette atmosphère qu'on adore quand même, évidemment, à Monaco, il y a ce côté people, on en parle. T'as croisé de la star dans le paddock, dans les rues de Monaco, Nico?
Ouais, bien évidemment. Bah, à part les anciens pilotes de Formule 1, tiens, au moment où je te parle, il y a Jenson Button, là, qui est consultant pour la télé britannique, qui est juste à côté de nous. Mais oui, il y a de la star qui est arrivée. Alors figure-toi qu'hier, je me suis retrouvé sur le ponton lors de l'arrivée de Kim Kardashian. Qui venait soutenir Lewis Hamilton. J'ai donc appris que Kim Kardashian avait un peu officialisé sa relation avec Lewis Hamilton.
Ça y est, c'est fait. Ouais.
Il se côtoie, ouais, ça y est, depuis quelques mois. Je l'ai pas reconnue. Elle est passée juste, mais vraiment, elle est passée à côté de moi. Je me suis dit, mais il y a beaucoup de photographes et tout ça. Le service de sécurité est un peu imposant. Je l'ai pas du tout reconnue. Mais oui, Kim Kardashian. Il y a des anciens footballeurs comme. Paul Pogba, Mats Hummels, Mario Götze qui était invité par Mercedes, l'humoriste Paul Mirabel, Mister V aussi, qu'on connaît bien chez nous. Voilà, il y a plein de monde. Puis il y a Denis Charvet aussi de RMC qui est dans le paddock que j'ai pas encore croisé.
Lui, tu l'as connu. L'as pas eu encore. Ouais. Ah, dommage.
Ouais, je l'ai pas encore vu, Denis. Non, je ne sais pas dans quelle hospitalité il a réussi à être invité. Mais en fait, c'est aussi ce qui fait qu'à Monaco, tu vois, c'est différent. C'est que, bah, t'essayes de guetter le moindre ponton, la moindre arrivée. Et puis les gens qui prennent leur passe paddock, leur passe VIP pour essayer de vivre ces moments-là, c'est ce qu'ils veulent voir. Bien
oui,
évidemment,
ça fait aussi partie du show. Il y a évidemment le sportif, la course, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour.
Tu veux avoir ta petite photo avec Charles Leclerc. Ce matin, tu vois, je suis arrivé, Charles Leclerc descendait d'un bateau aux couleurs de Monaco. C'était lui qui a amarré le bateau. Là, tu vois, juste à l'instant où je vous parle, là, il y a Sergio Pérez avec ses enfants et sa compagne là, qui est un peu assaillie par des gens pour une petite photo, pour des signatures sur les casquettes. Donc, les pilotes de Formule 1 sont les grandes stars. Mais tu as aussi énormément de monde qui attend autour des pontons, voire le moindre petit bateau, là, la petite barque, enfin, c'est des belles barques quand même, mais qui descendent des yachts et qui vont déposer les guests, les VIP, pour qu'ils accèdent au paddock.
Nous, au Grand Max, on met vraiment un kayak gonflable à côté et
Et encore, sans moteur, hein, mon gars, hein, à la rame, hein, nous. Hein. Nous, on n'a pas le moteur. Hein.
Tu parlais de ces pilotes qui sont assaillis. Est-ce que toi, ton ressenti, ils jouent le jeu aussi de ce Grand Prix-là qui est à la fois très bling-bling, très ouvert aussi en termes de photos, etc. T'as l'impression qu'ils jouent le jeu de cet événement qu'est Monaco ?
Oui, vraiment. Et je trouve ça surprenant. Et c'est vrai que pour avoir fait quelques Grands Prix aussi à côté, globalement, les pilotes de Formule 1, quand ils sont sur ces événements-là, ils jouent toujours le jeu de la petite photo, de la dédicace. Voilà, il y a vraiment... Alors, tu sens qu'ils sont quand même escortés. Il y a un peu des gens de la sécu qui sont là. Ils ne s'arrêtent pas, en fait. Ils ne vont pas s'arrêter à chaque fois qu'ils font de la photo. Mais par contre, sur le chemin, en marchant, ça signe des trucs. Prend des photos, c'est vraiment très bon enfant et ouais, ils le savent, hein, ça fait partie des sollicitations qui sont obligatoires avec leur métier.
Et est-ce que Kim Kardashian, elle t'a reconnu?
C'est une bonne question. Bah, je vais pas demander du coup, mais à mon avis, il a dû se passer un truc.
Ouais, hein. Je pense qu'elle a pas osé. Je pense qu'elle a pas osé venir te voir. C'est surtout ça.
Elle a dû voir un sombre journaliste avec un casque essayer de se connecter pour une émission de radio. Oui.
Nico, voilà. Il y a quand même des choses qu'on ne retrouve qu'à Monaco, ou presque, j'allais dire des petits détails, mais c'est plus que des petits détails, c'est des très gros détails à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Et ça se passe dans le port directement de Monaco, Nico.
Ouais, ça c'est vraiment impressionnant, le fameux bal des bateaux, tous ces yachts là qui sont dans la baie de Monaco. J'ai même envie d'élargir jusqu'à la baie de Nice. Mais t'as des monstres qui sont amarrés dans le port. Et ça c'est l'image iconique du Grand Prix. T'as les bateaux, t'as les yachts, t'as les immeubles aussi qui sont transformés en loges VIP. On y reviendra plus tard, mais Mais c'est vrai que, en fait, les bateaux deviennent des lieux de réception à part entière. T'as un énorme sponsor de la Formule 1, TAG Heuer, qui est un horloger suisse, ouais, qui a un bateau spécialement affrété pour l'occasion, où t'as tous les guests. Il y avait une soirée énorme qui était organisée hier soir. Voilà, c'est en fait, Monaco, t'as la vie dans le paddock, sur le circuit, en tribune. T'as la vie en dehors du circuit, mais sur tout ce qu'il y a sur terre, dans les immeubles, sur les terrasses, sur les balcons. Et t'as la vie sur la mer. C'est vraiment trois écosystèmes différents qui se côtoient. Et puis, voilà.
Et puis pour le commun des mortels, c'est vraiment hyper impressionnant. Je sais que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois à Monaco pour le coup. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment la démesure, presque l'outrance à son paroxysme, quoi.
Mais il y a même des moments où tu te sens pas foncièrement à ta place, ouais, pas foncièrement bien quand tu es à Monaco. Et je vais vous raconter ma vie un petit peu, mais c'est vrai que je discutais avec ma femme hier et je lui disais, c'est fou parce que c'est le seul endroit, on commence à avoir fait quelques événements, nous avec RMC, PAC de la Formule 1, dans plein de sports, c'est le seul événement où tu te dis un petit peu, tu vois, pour être un peu trivial, mais merde, mais qu'est-ce que je fais là en fait ? Que ce soit au niveau des tenues, de l'ambiance, de comment les gens sont habillés, du contexte social, et là je vous parle bien de ce qui se passe dans le paddock, hein, avec les VIP, je vous parle pas de ce qui se passe en tribune.
Bien sûr.
Ouais, c'est un peu lunaire, c'est hors sol, c'est hors du temps en fait, le Grand Prix de Monaco, t'as l'impression que c'est 4 jours un petit peu qui sortent du calendrier de l'année, complètement à part, et tu te retrouves propulsé au milieu de tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le voir vraiment, il faut le vivre pour le ressentir, parce que c'est difficile de le décrire, mais t'as complètement raison, c'est une ambiance, c'est du délire en fait.
Et pour le vivre, Nico, et être vraiment dans ce délire dont tu parles, il y a une sorte de tendance qui est devenue presque une véritable tradition au fil des années autour de ce Grand Prix de Monaco. Alors il y a les tribunes évidemment pour assister à ce Grand Prix, d'ailleurs on peut ressentir plein de choses différentes selon où on se trouve dans les tribunes dans ce Grand Prix de Monaco, mais oui, surtout il y a les terrasses et il y a les balcons, et c'est devenu une vraie tradition. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Nico?
Oui, c'est même devenu un énorme business. J'ai eu la chance d'aller vivre une séance d'essai libre sur une de ces terrasses parce qu'on voulait faire un reportage sur RMC. D'ailleurs, on peut le retrouver, Kylian, hein, ouais, sur le compte Instagram du paddock RMC, ce reportage en vidéo. Et c'est vrai que c'est une expérience à part. C'est un business à part entière qui représente plusieurs millions d'euros pour ces 4 jours de Grand Prix. Et c'est une famille qui nous a accueillis.
Salut RMC, c'est Guylaine et je vous fais visiter l'appart qu'on a loué pour le Grand Prix. Venez. Pourquoi on a choisi cet appartement ? Eh bien, pour la première raison, c'est qu'on est sur la ligne de départ du Grand Prix. Venez.
Alors, depuis ce point de vue-là, donc sur la ligne de départ du Grand Prix, on était à quelques mètres des Formule 1. Tu vois, et c'est assez impressionnant de voir ces voitures d'aussi près, de voir aussi autant de monde sur toutes les terrasses de Monaco. On a demandé à Guylaine quelle était la plus-value de vivre le Grand Prix sur un balcon.
Ce qui fait la différence en fait entre être dans les tribunes et vivre le Grand Prix à partir d'un appartement, c'est qu'on a les pilotes juste pour nous, c'est fantastique. On est à l'abri, pas d'histoire de pluie, on n'a pas trop chaud non plus et surtout, vous pouvez regarder, il y a toute une mise en place qui est très sympa pour tout ce qui est nourriture, boisson. Voilà, on est chouchouté pendant toute la journée, c'est génial.
Je confirme, ils étaient chouchoutés, hein, champagne, petit four salé, petit four sucré, du personnel pour s'occuper d'eux pendant toute la séance d'essai. Alors je vous explique comment ça se passe. En fait, les propriétaires d'appartements, les monégasques, contactent des agences qui s'occupent derrière, des agences d'événementiel, qui s'occupent derrière de transformer totalement leur lieu de vie en pièces pour accueillir des fans de Formule 1. En fait, ils récupèrent les clés de l'appart 10 jours avant et ils modifient tout. Ils sortent les meubles, ils installent une déco spéciale Grand Prix de Monaco. Il y en a même qui refont la peinture de l'appartement.
Ouais, c'est ça qui est dingue. Moi, vraiment, quand j'ai vu ton reportage et tout, j'avais conscience des terrasses et des balcons qui se réorganisent et tout, mais de là à repeindre les murs potentiellement en rouge, ouais, si c'est un fan de Ferrari, pour après les repeindre comme c'était à l'origine, j'ai trouvé ça absolument lunaire.
T'imagines, ils refont les peintures. Il faut savoir qu'il y a 60 000 personnes qui sont sur ces terrasses pour le week-end. Ça double quasiment l'affluence des tribunes. Donc, en effet, c'est énorme. Et t'imagines bien que ça a un coût. On a demandé à Gérald Demoine, le président de la Chambre de l'événementiel de Monaco, à combien ça chiffrait un week-end sur une terrasse.
La terrasse, c'est le charme de Monaco. Un week-end en terrasse, ça va coûter, je ne sais pas, entre 2 000 et 10 000. Celui qui va payer plus de 4000 euros pour faire le week-end. Soit il a une prestation extraordinaire, s'il a payé plus que ça, il a payé trop cher.
Bon, il nous dit entre 2000 et 4000 euros la place, Gérald Demoine, je peux vous assurer qu'il y a des prix démentiels, hein, de particulier à particulier, plus de 10 000 euros. Là, je vous donne les chiffres que conseillent vraiment les experts de ce marché sur Monaco, c'est déjà très très cher. On parle de 2000 à 4000 euros la place. C'est-à-dire que si vous voulez y aller en famille et tout ça, bien évidemment...
Oui, hein, c'est pas la terrasse, compte... c'est la place.
Et c'est pas la terrasse, c'est pas l'appartement, c'est pas la location de l'appartement, on est sur la location de la place. C'est cher, mais les clients kiffent vraiment ça. Écoute Renaud.
Tout ce qui est exceptionnel à un prix, effectivement, bien évidemment. À cette distance-là, c'est multiplié par 10 au niveau des sensations, donc il faut vraiment venir découvrir le Grand Prix à partir d'une terrasse comme ça, c'est top, quoi.
Ils étaient combien dans le petit appartement que j'ai suivi? Ils étaient une dizaine. Il y avait la maman, le papa, l'adolescente, les copains. Bref, ils se sont fait un truc ensemble. Je pense qu'il y avait aussi des relations de boulot qui étaient là. Mais c'est vrai que les terrasses et les balcons, ça fait vraiment partie de la légende du Grand Prix de Monaco.
Raconte-nous ton ressenti, toi qui étais justement sur ce balcon, au-dessus de la ligne de départ pour ces essais libres. Qu'est-ce que tu as ressenti quand toi, tu étais plongé dans cet appartement sur ce balcon-là?
Impressionnant, franchement c'est un truc unique que je referai peut-être jamais dans ma vie. C'est vrai que tu vois les Formule 1 passer, tu te rends compte de la sensation de vitesse. Et encore, t'as pas les mêmes bruits de moteur qu'à l'époque avec, ouais, les fameux V8, V10, V12 dont Jean-Luc à chaque fois nous parle sur l'antenne. Mais ouais, t'étais, en fait t'as l'impression d'être chez toi. T'as l'impression d'être chez toi, tu manges un peu, tu bois un coup, t'as un canapé, les agences mettent la télé avec le diffuseur Canal+, tu vois, qui te permet de suivre la séance d'essai. Et sur la ligne de départ, tu vois les voitures qui tournent. Franchement, c'est unique, encore une fois, ça fait partie du charme de Monaco. Et moi, ce qui m'a assez fasciné, c'est que derrière ces terrasses-là, tu peux les louer pour le week-end, ça se transforme en lieu de fête, en fait, en lieu de vie. Tu as la course qui se termine et à 18-19h, bim, il y a des DJ, il y a du son, il y a du champagne, ça coule à flot, ça bouge de terrasse en terrasse. Enfin, c'est une énorme fiesta, quoi.
Ouais, et puis ça s'arrête jamais. Je suppose que tout est extrêmement millimétré et fait pour que, justement, au fil des années, ça continue à se développer et à ramener du monde. Donc je pense qu'au fil des années aussi, tout est extrêmement préparé pour que ça continue comme ça au fil des ans.
Ah ouais, et puis bien sûr, c'est super bien organisé. Franchement, vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. Hein. Il y a des agences d'événementiel sur Monaco qui vont vous renseigner. Et puis pour les propriétaires monégasques, si tu fais rentrer 6000 euros sur le week-end, tu l'as rentabilisé. Hein. Ta location, ton prêt d'appartement, je pense que ça met un peu de beurre dans les épinards. Donc après, c'est très très cher. Bien évidemment que tout le monde ne peut pas se payer ça. Mais si vous pouvez le faire, c'est un truc à vivre.
Un peu de sportif avec toi, Nico. Je rappelle que tu es évidemment envoyé spécial pour RMC à Monaco pour suivre ce Grand Prix absolument dingue, de folie. Un peu de sportif, je le disais, au terme de ces qualifs, il y en a un qui nous impressionne de week-end en week-end. Il a à peine 19 ans, c'est Kimi Antonelli qui va partir en pole une nouvelle fois, Nico.
Impressionnant, franchement, il est de plus en plus solide. Je vais même vous dire qu'il a signé la pole position, je ne vais pas dire sans trembler, mais dans une séance de qualification avec un niveau exceptionnel. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une Q3 de ce niveau-là. Et c'est Antonelli qui arrive à prendre le meilleur sur les monstres que sont Verstappen, Hamilton, Leclerc à domicile. C'est pour vous dire quel cap il a franchi. J'ai été bluffé tout au long du week-end par la sérénité de Kimi Antonelli. Moi, je traîne beaucoup dans le paddock à côté des hospitalités, alors on n'est pas au quotidien avec les pilotes, mais on les voit passer, on les voit échanger, et tu sens qu'il a l'insouciance d'un jeune de moins de 20 ans. T'as vraiment l'impression là que tout lui glisse dessus, aucune pression, et qu'il est en pleine confiance, il peut rien lui arriver. Il a fait un tour hier où il frôle les murs, il est à 3 cm, tout lui réussit. Tu sens qu'il a les petits millièmes aussi qui sont avec lui. Voilà, franchement, c'est en train de devenir... Tu vois, on parlait du prince de Monaco pour Charles Leclerc. Il y a énormément de soutiens italiens qui sont là pour lui. Lui, c'est peut-être le deuxième, hein, prince de Monaco. Il va peut-être essayer de détrôner Charles Leclerc s'il s'impose tout à l'heure.
Et voir le petit prince de la F1 tout court, hein, je pense. Ouais. Il n'y a pas qu'à Monaco qu'on s'extasie devant Kimi Antonelli, qui en plus a pris une ampleur et a envoyé un certain message quand même dans ses qualifs en terminant, tu l'as dit, devant Verstappen et Hamilton qui font 2 et 3. Vraiment, cette perf, elle est exceptionnelle. Juste pour revenir sur Verstappen et Hamilton, regain de forme après le Grand Prix du Canada. Est-ce qu'on a l'impression que les deux légendes de la Formule 1 sont vraiment de retour au premier plan ?
Verstappen, je pense que oui, sa Red Bull va mieux. On le sent que depuis qu'il s'est fait à cette nouvelle réglementation, qu'il a décidé vraiment de basculer sur cette saison de Formule 1, on sent quand même que le niveau est en train de revenir très très fort, qu'il est en train de s'adapter aussi à cette nouvelle voiture. Donc Verstappen, oui. Lewis Hamilton, j'ai envie de te dire qu'il y a du mieux, c'est une certitude. On se rappelle qu'il a signé au Canada sa meilleure perf avec la Scuderia Ferrari, et c'est surtout que là, il arrive à rivaliser avec Charles Leclerc chez lui, à Monaco. Il est en grande forme, Lewis Hamilton. Est-ce que ça va durer toute la saison ? Ça dépendra énormément de la monoplace. On sait que la Ferrari à Monaco, elle est taillée pour ce circuit-là. On en parlait, nous, dans le warm-up de jeudi dernier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez. On vous a donné nos petits pronos. Et c'est vrai que ce qui transpirait, c'était que Ferrari était au-dessus. Ça se ressent. Mais dans l'affrontement des pilotes Ferrari, Hamilton n'a pas démérité, puisqu'il termine meilleur chrono de la deuxième séance d'essai libre devant Leclerc et qui fait une meilleure qualif. Donc ouais, on a un grand Lewis Hamilton qui est en plus serein. Alors tu vois, lui, Lewis Hamilton dans le paddock, il se balade avec sa petite trottinette, on a l'habitude. Puis en plus là, il y a Kim Kardashian qui est là pour le voir.
Oui, puis lui, il a roulé sa bosse, quoi. C'est pas comme Kimi Antonelli, lui il vient à Monaco, c'est pas, il est pas étonné.
Ah,
quoi.
Ah ouais, non, il connaît, je pense qu'il connaît les bonnes adresses aussi. Je sais pas où est-ce qu'il dormait avec Kim hier soir, mais je pense qu'ils ont 2-3 spots qui sont sympas à conseiller. Enfin, oui. À conseiller. Bon, oui. Faut pouvoir avoir le portefeuille derrière peut-être pour
Ils peuvent toujours me le conseiller. Après, je suivrai peut-être pas
exactement.
Les conseils, mais je prends, il n'y a pas de problème.
Ils peuvent nous conseiller, mais on ira quand même checker la carte avant de rentrer dans l'établissement.
Un autre qui doit quand même connaître les prix et les bonnes adresses à Monaco, c'est le régional de l'étape, Charles Leclerc. Un petit mot, Nico, il partira quatrième tout à l'heure.
Ouais, c'est le grand déçu, franchement, de la séance de qualif d'hier, parce qu'il a fait un début de week-end ultra solide, Charles Leclerc. Franchement, moi, après la troisième séance d'essai là, de samedi midi, je le voyais vraiment comme le grand favori pour signer la pole position. Et il a eu un petit souci de frein, il s'en est plaint lors des essais. Ça ne s'est pas très bien passé. Hier, on a réussi à le croiser en zone d'interview. Il disait qu'il n'avait pas eu un super bon feeling avec la voiture. Du coup, il est parti en décalé sur la Q3 et il n'a pas réussi à sortir le tour immense qui aurait pu lui offrir la pole. Et il a été coupé dans son élan sur son dernier tour chrono. Donc on sait qu'à Monaco, lors de cette séance de qualification, il peut se passer énormément de choses. Tu peux être pris dans le trafic. C'est ce qui s'est passé avec Leclerc sur la fin de son dernier tour rapide. Et je te cache pas qu'il y croyait pas trop. Voilà, hier, il y a des journalistes qui lui ont posé la question en mode Ferrari part très très bien depuis le début de l'année. Le départ, c'est une des grandes forces des Ferrari en course. Est-ce que tu sens que tu peux le faire ? Il disait là, va falloir faire vraiment un départ immense si je veux prétendre à quelque chose sur ce Grand Prix-là. Donc, un peu dépité Charles Leclerc, alors que là, on a Oscar Piastri. Tous les pilotes là qui sont en train de passer devant moi, Kylian, parce que c'est la parade des pilotes dans quelques instants. Oui. C'est un moment qui est super apprécié aussi, où les pilotes vont défiler avant la course. Ça leur permet aussi de ressentir un petit peu, tu vois, cette énergie en tribune. Donc j'ai vu Pierre Gasly en trottinette, là c'est Oscar Piastri avec sa McLaren. Millième Grand Prix pour McLaren ce week-end, avec une petite livrée spéciale. Voilà.
Tribunes qui sont déjà pleines à craquer, Nico ?
Écoute, alors attends, je vais lever la tête, je ne pense pas, parce que quand même il fait chaud, donc les gens vont s'hydrater. Et, ça arrive au compte-gouttes, et puis tu sais, ça sort un peu du circuit. L'avantage d'être en ville, c'est que tu peux sortir du circuit, aller boire un petit coup, manger un petit truc sympa dans les restos de Monaco. C'est pas si cher que ça en plus, donc il y a beaucoup de gens qui font le va-et-vient, qui vont se désaltérer, qui sortent pour profiter un petit peu de la ville et qui reviennent en tribune au moment des séances à regarder.
Nico, pour finir, un petit mot de nos Français quand même. Tu as eu le privilège de les rencontrer, de les interviewer hier à la fin des qualifs. On va les écouter. Isaac Hadjar, d'abord, il avait mal débuté dans le mur dès les essais. Il a signé une belle cinquième place quand même sur la grille de départ. C'est pas hyper satisfaisant pour lui, mais il vise quand même potentiellement bien mieux sur ce Grand Prix. On l'écoute.
C'était du n'importe quoi ce week-end de toute façon. Pas de confiance en FP2, la voiture était un peu remontée à l'arrache. Je perds un peu le vendredi et en qualif, la voiture était trop irrégulière tour par tour. Le build-up pour la Q3, il était vraiment mauvais. Je suis content d'avoir limité les dégâts, mais je sais qu'en performance pure, je devrais être avec les gars de devant. Donc 3 dixièmes à Monaco, c'est pas énorme, surtout avec tous les problèmes que j'ai eu. Donc ça va être tout dans le départ, tout dans le pit-stop, rester éveillé, pas faire d'erreur. Donc déjà, on arrive à aligner ces 3 paramètres, je pense qu'on peut être peut-être podium, c'est pas.
Podium, pourquoi pas? Tu l'as senti comment toi, ouais. Nico?
Écoute, je l'ai senti bizarre, Isaac Hadjar, parce que franchement, il plante sa voiture sur la première séance d'essai. Tu te dis, oh, ça va être dur. Ah ouais. Il arrive à claquer un super dernier tour, 5e. Et au final, quand tu l'entends derrière, il te dit que c'est compliqué pour lui, qu'il galère, que c'est pas satisfaisant parce qu'il a une voiture pour faire mieux. Il est ultra ambitieux. Tiens, Fernando Alonso qui va signer une petite casquette juste devant moi avec la trottinette de Pierre Gasly. Alors la trottinette de Pierre Gasly, on est sur modèle de base, je peux te le dire, modèle de base. Attends, je vais me faire rouler dessus par Lance Stroll, je vais me décaler. Parce que
là, là on est vraiment au cœur du paddock. Hein, vraiment, si tu te fais écraser par Lance Stroll, je pense qu'on peut faire du clic après. Hein.
Je peux te dire qu'il n'a pas freiné. Le Canadien n'a pas freiné. Si je bougeais pas le pied, il me roulait dessus. Là, c'est Lando Norris. Là, toujours tout sourire, Lando Norris. Très sympa dans le paddock. Franchement, tu sens qu'il est ultra heureux d'être là, de répondre aux fans à chaque fois. Oui, donc Isaac Hadjar, très, très paradoxal. Parce que déçu, on sent qu'il pouvait faire mieux, il le sentait, le niveau de la voiture, les réglages faisaient que Red Bull pouvait prétendre à quelque chose de grand. Je pense qu'il s'est senti aussi un petit peu loin de Max Verstappen, alors qu'au final il termine 4-3 dixième, c'est ce qu'il disait. Donc des regrets, mais quand je vois moi d'où il part avec ce premier gros carton là sur la séance d'essai libre 1, je me dis que c'est bien, franchement. Oui, c'est sa meilleure perf en carrière à Monaco.
Peut-être pas si mal à suivre. En effet, Isaac Hadjar, on va enchaîner rapidement avec Pierre Gasly. Tu l'as suivi, tu as pu le rencontrer aussi. Pareil, même question, comment tu l'as senti après ces qualifs, Nico?
Content, franchement ultra heureux Pierre Gasly, je te propose de l'écouter tout de suite. Lui, pas du tout le même feeling que Hadjar, parce qu'il a galéré avec sa voiture, il a réussi à se hisser en Q3, on l'écoute.
C'était sympa, j'ai encore ce tour en tête et vous essayez juste de freiner ce petit mètre plus tard, de réaccélérer un peu plus tôt le genre de marge de quelques centimètres que vous avez à la sortie face au mur. Tout a disparu, dans ce dernier tour je savais juste que je devais tout donner et j'ai vraiment ressenti de l'excitation. Monaco est un circuit difficile pour se faire une idée précise de la voiture, on glisse un peu partout, donc j'attends Barcelone pour avoir une vision plus claire. Je pense que ce week-end il fallait juste s'en sortir et c'est ce qu'on a fait, donc je suis très content.
About, you know, it's Monaco, just get away with it and that's what we did, so I'm very happy.
Nico, il a quand même fait un peu plus que juste s'en sortir, il partira quand même 9e sur la grille.
Ouais, non mais vraiment il a réussi à optimiser le niveau de sa monoplace, mais il nous le disait un petit peu en off. Alors pourquoi vous entendez d'ailleurs, petite anecdote, les pilotes français parler en anglais? Parce qu'il n'y a pas tout le temps des sessions en français qui sont organisées avec les médias. Donc si le pilote n'a pas forcément envie, ou s'il n'y a pas assez de journalistes français et que la communication des écuries décide de ne pas faire de français, on est obligé de recueillir leurs impressions en anglais. Je referme l'aparté, ouais, ultra heureux parce qu'on sent que lui, sa voiture, elle lui correspond pas depuis le Canada. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il se plaignait un petit peu de la différence de réglage avec ce que les mécaniciens et les ingénieurs ont trouvé sur celle de Colapinto. Donc tu sens qu'il s'est bagarré avec sa voiture et la placer 9e, c'est vraiment une jolie perf. Maintenant, il va falloir voir en course si l'Alpine est capable de tenir. Même si on sait que c'est difficile de dépasser à Monaco, ça va pousser fort derrière parce qu'il y a des voitures qui sont assez rapides derrière, notamment Audi avec Hülkenberg, avec Bortoleto. Ça va très vite.
Ça va être une belle bataille pour terminer dans les points pour Pierre Gasly. En revanche, Nico, il y en a un qui enchaîne déception sur déception sur déception quand même. C'est Esteban Ocon.
Ouais, galère la saison d'Esteban Ocon qui, tu sais quoi, on va l'écouter, il parle encore un peu de la malchance qu'il a eue, et pour le coup c'est vrai, il n'y a pas grand chose qui s'aligne pour Ocon.
Ça met en évidence l'une de nos faiblesses, mais il y en avait beaucoup plus dans la voiture et j'étais content de l'amélioration des performances qu'on a faites du vendredi au samedi. Je n'étais pas content de la voiture vendredi et samedi et on a fait une bonne progression, ce qui était positif. On en avait plus sous le pied, une Q2 élevée, peut-être la Q3, on ne sait jamais, mais on n'a pas de chance et ça me fait chier parce qu'aujourd'hui la récompense aurait dû être plus grande.
Ouais, on sent qu'il est embêté quand même, Esteban Ocon.
C'est-à-dire que quand on te dit que la voiture a le potentiel pour faire Q3, tu passes pas la Q1 et que tu es 17ème, Ouais, je comprends que t'en es gros sur la patate, surtout qu'en fait il était dans un super tour rapide à la fin de la Q1. Esteban Ocon, accident de Bortoleto qui plante son Audi, fin de session, il n'a pas pu terminer son tour. Et pour le coup, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup répéter ça sur toutes les zones médias depuis le début de la saison. Ocon, un peu la malchance, là, le manque de réussite. Des fois, on se dit que c'est un peu exagéré, mais c'est vraiment le cas. Donc, c'est compliqué pour lui. On sent qu'il y a de la tension dans l'écurie. On sent qu'il commence à y avoir un peu de tension avec Berman en piste. On a vu des échanges où les deux pilotes se mettaient deux, trois petits tirs sur des tours rapides.
Ouais, parce que
à la radio, via la radio, ouais, radio interposée. Voilà, tu sens que le climat n'est pas ultra sain, tu sens qu'Esteban Ocon est dans le dur, tu sens aussi qu'il y a la silly season qui se rapproche avec la période de transfert et qu'il va y avoir un vrai enjeu pour l'avenir d'Ocon en Formule 1. Donc écoute, on espère que ça va réussir à s'inverser pour lui, mais il n'y a pas grand chose qui va dans cette saison avant ce départ du Grand Prix de Monaco.
Ouais, c'est sur grosse pression en tout cas sur les épaules d'Esteban Ocon pour conclure et refermer cette carte postale en direct de Monaco avec toi, Nicolas Paolorsi. Juste un petit mot de ton programme. Là, tu es dans le paddock. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochaines minutes avant le tout début de ce Grand Prix de Monaco ?
Écoute, on va essayer d'aller jeter un petit œil à la parade des pilotes. On va essayer de prendre un petit peu la température auprès du public aussi. Et puis, on va suivre la course dans la zone média. Il y a un énorme écran qui permet aux médias de suivre tout ça avec le live timing, toutes les données. Et puis derrière, on ira. Alors, c'est compliqué à Monaco d'avoir des accès pour recueillir les impressions des pilotes. On n'a pas forcément tous les accès, nous. Mais on va essayer de prendre un petit peu l'ambiance jusqu'à la fin de ce Grand Prix de Monaco. La météo, il fait beau, il fait frais. Hein, donc, écoute, ça va être une course où il peut se passer pas mal de choses avec ces nouvelles Formule 1, plus d'agressivité sur la piste. Vous savez qu'il n'y a plus la règle des deux arrêts obligatoires qui avait été fixée l'an dernier. Donc, il peut se passer quand même pas mal de choses avec des stratégies audacieuses. J'ai hâte tout simplement, on va se régaler. Est-ce que tu veux un selfie avec une star, Kylian? Tu me dis.
Écoute, si tu croises des basketteurs, tu sais notre appétence commune pour le basket, si jamais tu croises des basketteurs célèbres.
Il y avait des basketteurs à NBA il y a deux ans, je me souviens.
LeBron a dû venir de temps en temps, LeBron James. Non, il a dû passer une tête à Monaco.
Oui.
Stephen Curry aussi peut-être.
J'essaie de trouver ça.
Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup, mon Nico. C'était passionnant, cette carte postale en direct de Monaco. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette carte postale. Évidemment, si ce format vous plaît, n'hésitez pas. Donnez-nous une bonne note, laissez-nous des commentaires et puis abonnez-vous au paddock RMC. C'est important pour ne rater aucun épisode. Je vous renvoie aussi, comme l'a fait Nico, vous commencez à en avoir l'habitude, au compte Insta du paddock RMC. Vous y trouverez toutes les informations du monde de la Formule 1 et je vous donne rendez-vous évidemment demain pour le débrief de ce Grand Prix de Monaco qui s'annonce épique. Salut à tous.
Le paddock RMC.